Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bousouma.
Il y aura élection le 23 décembre malgré la perte de certains engins électoraux hier dans un incendie à Kinshasa. Cette assurance est du président de la CENI. Corneille Nanga précise qu'il y a une marge de matériel appelée contingence pour combler ce vide. Lutte contre Ebola. Les Nations Unies octroient 10 millions de dollars aux pays de l'Afrique centrale. Annonce faite hier par le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Et puis, l'invité de ce matin, Sami Badibanga Ntita, candidat numéro 18 à la présidentielle qui intervient dans 9 jours exactement en RDC. Il nous parle de son programme de campagne dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. La commission électorale qualifie de coup dur l'incendie hier matin de ses entrepôts qui contenaient des matériels électoraux. Selon son président qui s'exprimait hier dans une conférence de presse à Kinshasa, les matériels consommés concernent 19 communes de la ville de Kinshasa sur les 24. Corneille Nanga rassure néanmoins de la tenue des élections le 23 décembre prochain comme prévu. Des détails avec Paul Matendo.
Selon le président de la CENI, près de 8000 machines à voter, 800 nouvelles motos, 15 véhicules et plus de 3000 isolants sont partis en fumée. Malgré cette perte, Corneille Nanga rassure que la CENI s'emploie à organiser les élections le 23 décembre prochain.
Je commencerai par assurer les Congolais qu'il y aura élection et nous l'avons annoncé, la CENI s'emploie pour que les élections se tiennent conformément à son calendrier.
D'où viendront les matériels pour tenir ce rendez-vous à Kinshasa? Corneille Nanga répond.
Lorsque nous faisons l'acquisition des matériels, nous prévoyons toujours des marges, ou qu'on appelle la contingence. Évidemment, c'est cette contingence qui sera mise en contribution ou qui sera activée pour que Kinshasa, qui n'a plus de matériel, ait la possibilité d'avoir ces matériels. Ainsi, ce qui était prévu comme surplus ou réserve, une partie va devoir être ramenée à Kinshasa pour son déploiement dans la capitale et couvrir le près de 8000 bureaux de vote de la capitale à Kinshasa.
La CENI ajoute que les enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de cet incendie.
Pendant ce temps, le déploiement du matériel électoral se poursuit dans le sud Kivu, même dans les coins réputés d'accès difficile. Selon le vice-président de la CENI en séjour dans cette province, les rotations aériennes pour le dépôt de ce matériel ont commencé avec l'hélicoptère militaire que le numéro 2 de la CENI a réceptionné mardi à Goma. Norbert Basengezi confirme le déploiement de ce matériel de vote. Il s'exprimait hier au micro de Michel Chirimwami.
L'hélico militaire que j'ai réceptionné hier à l'aéroport de Goma vient de faire des tours ce matin en Nzovu pour desservir Kitutu. Personne de Bukavu, personne de Kabare, personne de Walungu, d'Uvira ou de Fizi jusqu'à Minembwe, de Kalehe, sauf Numbi justement, ne vous dira qu'il y a un problème de matériel. Nous sommes à la formation. Cette formation se termine les 21. Et ceux qui seront formés chacun pourra partir avec son matériel dans les bureaux de vote. On va l'aménager à la veille le 22 et le 23, c'est l'élection avec la machine à voter. Il y a quelqu'un qui a posé la question de duplicata. Vous devez avoir directement l'attestation de perte de pièces qui ne vient pas de la CENI.
Et puis, le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, CNSA, condamne les dérapages observés dans la campagne des candidats présidents dans l'Est du pays. Joseph Olengakoy, président du CNSA, appelle le ministre de l'Intérieur à sécuriser le reste du processus électoral. Il l'a dit hier au cours d'un point de presse à Kinshasa, Joseph Olengakoy, dans ses propos recueillis par Paul Matendo.
La réalité sur le terrain devient de plus en plus inquiétante. Quand les uns sont interdits, d'autres sont accueillis avec des jets de pierre. Ça, ce n'est plus la démocratie. Tout un regroupement qui va amener des scènes de violence pendant cette période, moi je crois qu'ils seront sanctionnés et ils assumeront toutes les responsabilités de ce qui deviendra. Et c'est par là que je lance un appel au ministre et à charge de l'Intérieur de faire appliquer l'accord dans son intégralité, dont notamment dans le chapitre 5.4 de l'accord, qui demande à instruire aux autorités, notamment les gouverneurs, à faire respecter les droits de l'homme de respecter la liberté de mouvement et de respecter le processus électoral tel que prescrit et par la loi électorale, par l'accord ainsi que cimenté par la loi fondamentale qui est notre constitution.
Je vous le disais en titre, l'ONU octroie 10 millions de dollars de fonds d'urgence aux pays de l'Afrique centrale dans le cadre de la riposte contre Ebola. L'annonce a été faite hier par Marc Lacock, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Les 10 millions de dollars s'ajoutent aux 4,5 millions de dollars déjà alloués par le fonds aux agences onusiennes présentes en RDC depuis le début des épidémies qui ont éclaté dans les provinces de l'Équateur en mai 2018 et au Nord Kivu en août 2018. Explication de Franck Chimwanga.
Les organismes d'intervention dirigés par l'Organisation mondiale de la santé font un travail remarquable pour contenir l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC. Mais il est important de soutenir le pays voisin aussi, explique le numéro 2 aux affaires humanitaires, coordonnateur des secours d'urgence dans un communiqué. Pour le chef de l'humanitaire de l'ONU, une action précoce financée par l'OCERF est une priorité compte tenu de l'impact majeur du virus en cas de propagation dans le pays voisin de la RDC. En réaction, le directeur général de l'OMS se félicite de cette annonce de financement. Selon le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, ce fonds arrive à point nommé car son organisation est en pleine accélération des activités de préparation dans les pays voisins de la RDC. Remerciant M. Lacock pour la contribution du CERF, le Dr Tedros invite les autres bailleurs de fonds à suivre l'exemple du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA. Nous avons besoin de votre soutien financier, continue pour mettre fin à cette épidémie et ne laissons pas tomber tant que le travail n'est pas terminé, souligne le chef de l'OMS.
Et concernant l'évolution de la situation épidémiologique de la maladie Ebola dans le Nord Kivu et l'Ituri, dans un communiqué rendu public hier, le ministère de la Santé rapporte que depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 515, dont 467 confirmés et 48 probables. Au total, il y a eu 303 décès et 179 personnes guéries, 96 cas suspects en cours d'investigation, 10 nouveaux cas confirmés, dont 4 à Kiondo, 2 à Mabalako, 2 à Komanda, 1 à Kalunguta et un à Beni, 7 nouveaux décès des cas confirmés, tous des décès communautaires, excepté celui de Beni, 4 nouvelles personnes guéries, dont 3 sorties du centre des traitements Ebola de Beni et 1 du centre de Butembo. Santé toujours, plus de 42 000 enfants ciblés par une campagne de vaccination préventive contre la rougeole dans la zone de santé de Kamonia, province du Kasaï. C'est une initiative de Médecins sans frontières, un mois après la mise en place des cliniques mobiles dans la même région et par la même ONG internationale. Honoré Missenga nous en parle.
C'est un communiqué de MSF daté du 13 décembre 2018 qui l'annonce. L'initiative entre dans le cadre de son soutien aux ressortissants congolais arrivés d'Angola et à la population locale de Kamonia au Kasaï. Cette campagne préventive contre la rougeole a ciblé plus de 42 500 enfants de 6 à 59 mois. Selon la source, la première phase de la campagne s'est déroulée du 29 novembre au 5 décembre 2018. Près de la moitié d'enfants visés ont déjà été vaccinés. La deuxième phase est en cours, affirme dans ce communiqué Joël Nimi-Nimi, responsable MSF de l'intervention. Du 30 octobre au 11 décembre, cette ONG a également assuré des cliniques mobiles pour offrir des soins de santé primaire aux retournés congolais d'Angola et aux autochtones dans la zone de santé de Kamonia. MSF est présente dans les régions du Kasaï et du Kasaï central à partir de mai 2017. Depuis cette période, elle apporte des soins d'urgence gratuits aux populations touchées par la crise, notamment les victimes des violences.
L'invité. Comme annoncé, Radio Kapi reçoit ce matin le candidat à la présidentielle numéro 18, Sami Badi Bangantita, qui se présente sous l'étiquette du regroupement politique Les Progressistes. Il nous parle de son programme de campagne dans cet entretien mené par Pele Kipela Mondo.
Monsieur Sami Badi Bangantita, bonjour.
Bonjour.
Avant d'aller plus loin, voudriez-vous nous dire pourquoi vous briguez la magistrature suprême pendant les 5 prochaines années?
Écoutez, fort de mon expérience de 30 ans aujourd'hui, dont 20 années dans le privé et 10 ans en politique, j'ai été député national et président du groupe parlementaire UDPS, donc le premier parti de l'opposition à l'Assemblée nationale. J'ai été premier ministre. Aujourd'hui, j'ai une vue panoramique de l'état du pays. Notre pays est un paradoxe. Avoir autant de richesses et avoir autant de pauvres, cela fait mal et même très mal. Parce que vous savez qu'en 2019, le Congo comptera plus de pauvres que l'Inde, alors que l'Inde a 1,4 milliard d'habitants, soit 14 fois plus que le Congo. Ce pays est malade, malade dans tous les secteurs, la sécurité, l'économie, la santé, l'éducation, etc. Je pense qu'aujourd'hui, je peux apporter des réformes qui peuvent nous permettre de sortir de ce traquenard dans lequel nous sommes en train de tourner depuis autant d'années.
Vous venez de parler de l'état du Congo qui souffre de plusieurs maladies. Vous citez notamment la sécurité. Vous savez que les milices, les groupes armés pullulent dans les provinces de l'est de notre pays. Si vous êtes élu chef de l'État, comment pensez-vous mettre fin à ces problèmes d'insécurité?
Dans un premier temps, je vais prendre la décision de déplacer l'état-major général au niveau de l'Est, c'est-à-dire à Goma, pour qu'il soit au plus proche des réalités et qu'il puisse trouver les solutions idoines face à toutes ces milices qui pilulent dans l'Est du pays. Deuxièmement, les services de renseignement de l'armée aussi devront être sur place. Nous devons voir de manière vraiment identifier s'il n'y a pas des complicités au sein de l'armée. Et en plus, il faudra rapprocher les autorités de la population, parce que ce sont les populations qui sont au courant de ce qui se passe exactement, et même mettre un signal d'alerte général où les populations peuvent atteindre le plus rapidement les autorités et pouvoir leur dire s'il n'y a jamais un danger. Deuxièmement, il faudrait lancer une diplomatie tous azimuts avec les pays frontaliers, que ce soit sur le plan bilatéral donc, et même que ce soit sur le plan multilatéral. Nous devons avoir des discussions en profondeur avec les différents chefs d'État et pouvoir trouver les solutions idoines pour régler ce problème. Et troisièmement, enfin, il faudra trouver des projets d'intérêt commun. J'entends là des projets que ce soit sur le plan de l'énergie, que ce soit sur le plan des ressources naturelles, etc. Mais des projets d'intérêt commun, parce que c'est l'intérêt qui, en général, apaise les esprits et ramène le calme dans les pays.
La RDC connaît, M. Sami Badibanga Ntita, des problèmes de santé. Il y a des maladies qui jadis ont été éradiquées dans notre pays. On parle notamment du choléra. Aujourd'hui, les Ebola sont de retour. Quelle place vont occuper les questions de santé dans votre plan de redressement de ces pays si demain vous êtes chef de l'État?
Vous savez que le filet social dans mon programme a toujours occupé la première place. Mais cette première place, il y a trois problèmes réels qu'il faudrait régler. Le problème de la sécurité des personnes aidées, des biens, on vient d'en parler. Deuxièmement, le problème social. Et troisièmement, la redistribution des richesses. Et donc, au niveau social, sur le plan de la santé, vous savez que j'avais mené les démarches et initié la conférence internationale des donateurs pour les problèmes humanitaire. Nous avons pu obtenir 528 millions de dollars, mais qui aujourd'hui traînent encore à l'étranger en forme d'aide, parce que les ONG n'ont pas encore trouvé un accord avec le gouvernement. Ceci étant, la santé occupera une place réelle. Le budget de la santé doit être augmenté, premièrement. Les soins maternels et infantiles devront être gratuits. Les questions humanitaires, et je compte d'ailleurs même le problème d'Ebola et de la choléra comme étant des problèmes humanitaires, devront être attaqués jusqu'à l'os pour savoir quelles sont les causes pour pouvoir régler ces problèmes. Et il faudrait regarder du reste nos hôpitaux, comment est-ce qu'on pourrait les moderniser et permettre aux médecins de travailler dans les meilleures conditions. Bien évidemment, il faudra penser au salaire de ces derniers, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers. Notre objectif, c'est d'atteindre au minimum un salaire de 250 dollars pour tout fonctionnaire de l'État. En parlant de la santé, je pense aussi à l'éducation, parce que l'éducation permet à ce qu'on ait une très bonne santé. Et donc, on devra aussi travailler sur l'éducation des enfants, sur l'hygiène par rapport à la santé.
Un autre problème pour le Congo, c'est la qualité de l'enseignement qui ne fait que régresser. Les enseignants sont toujours insatisfaits de leur rémunération. Alors, comment vous allez vous y prendre demain si vous êtes chef de l'État pour redresser nos écoles et universités?
L'État, son rôle, c'est de pouvoir donner aux enfants et aux jeunes les moyens de pouvoir être éduqués, premièrement, et deuxièmement, dans des bonnes conditions. Donc les infrastructures de l'éducation devront être remises à niveau, c'est-à-dire les écoles, leur permettre d'avoir de l'électricité pour pouvoir travailler, leur permettre d'avoir les outils nécessaires, notamment les ordinateurs pour travailler et ne pas être en retard sur le plan technologique. Quant à l'éducation, même à l'enseignement, il faudra qu'on fasse les états généraux de l'éducation. Et ça doit être fait avec ce qu'on appelle une démocratie participative, en intégrant les enseignants. C'est avec eux qu'il faut faire ce travail-là. Ensuite, il faudra donner à ces enseignants aussi un salaire minimum qui leur permette de vivre et de nouer les deux bouts du mois. Vous savez qu'on a un problème de corruption dans notre enseignement. Cela permettra aux enseignants de ne pas se laisser avoir dans ces questions concernant les éducations. Les parents ne doivent pas payer les écoles ou payer les professeurs. On doit avoir un enseignement gratuit au niveau primaire et au niveau secondaire. Et je l'avais dit dans mon programme, nous devons aussi remettre sur pied la bourse d'études comme on l'avait jadis. Et même encourager ceux qui vont vers les études professionnelles et de formation qui pourront toucher jusqu'à $150. Sur le volet social, il y a ce que j'ai appelé Sunga Libota. C'est une allocation familiale qui sera payée aux mamans. Et pour les familles qui n'ont pas de maman, ça sera payé au père. Une allocation de $100 pour leur permettre, un tant soit peu, de pouvoir soutenir les frais liés à l'alimentation et à d'autres devoirs de la vie familiale.
Parlons maintenant de l'économie. Avez-vous un plan de redressement économique de notre pays? Vous l'avez dit, le vécu quotidien du Congolais aujourd'hui ne reflète pas ce que le pays possède comme richesse. Comment allez-vous faire pour redresser ce pays sur le plan économique?
Les réformes. Nous avons besoin de réformes pour arrêter de tourner en rond. Premièrement, j'ai une proposition, c'est celle de mettre sur pied la flat tax, c'est-à-dire le taux unique d'imposition à 10%, pour permettre de simplifier, de faciliter les entrepreneurs et qu'ils puissent avoir une projection sur l'investissement. Vous savez, si nous voulons développer notre pays, ce n'est pas l'État qui va développer le pays, mais ce sont les privés. Voilà pourquoi j'avais pris langue dès que j'étais à la primature avec la FEC et j'avais même mis une cellule à la primature chargée de contact avec la FEC. Et donc, il faut mettre cette flat tax là en place. Deuxième point, il faut arriver à une fusion des régies financières, c'est-à-dire la DGRAD, la DGDA et la DGI, de telle manière qu'on puisse avoir en réalité les recettes telles qu'elles sont données. Nous devons élever la direction de la trésorerie en direction générale de la trésorerie qui devra être placée à travers tout le pays, de telle manière qu'on pourra payer directement l'impôt à cette institution financière et elle pourra aussi se libérer de certaines dépenses de l'État directement. Et ce, pour laisser à la Banque centrale de jouer son rôle de la banque des banques. Troisième point, il y a cette simplification aussi au niveau de la douane. Il faut vraiment faciliter les opérations douanières pour que le Congolais puisse avoir la marchandise ou avoir la nourriture dans son assiette à un prix abordable. Cela permettra, nous n'allons pas continuer à vivre avec une économie de rente, c'est-à-dire une économie basée juste sur les mines. Vous avez vu avec la baisse du prix des mines que nous avons eu en 2015-2016, ça a causé beaucoup de tort à notre économie. Nous devons penser à notre économie en pensant à l'économie verte. Nous avons le deuxième poumon du monde en termes de carbone, c'est-à-dire notre forêt. Nous avons beaucoup de reboisement que nous faisons aujourd'hui. Nous devons pouvoir bénéficier des aides qui viennent à travers le RED Plus, par exemple, ou encore à travers le fonds vert. Mais nous devons le demander cette fois-ci, pas seulement pour couvrir les projets de reboisement qu'il y a dans notre pays, mais ça doit venir en forme d'appui budgétaire. Il y a beaucoup de pays qui en bénéficient. La Banque mondiale aujourd'hui a prévu $200 milliards pour l'économie verte. Je pense que, vu la grandeur de notre forêt, de nos parcs, etc., et que le carbone que nous avons, que nous devons contenir pour l'intérêt général ou l'intérêt mondial, il faudrait que nous puissions travailler avec les partenaires internationaux pour bénéficier d'un appui budgétaire dans la santé dans l'éducation, dans l'énergie, donc surtout pour couvrir notre filet social.
Pour terminer en une minute, quel est le message que vous adressez aux électeurs ?
Aux électeurs, le constat que je fais, c'est que la campagne électorale en général et la campagne présidentielle en particulier est un désert intellectuel. Il faut avoir des débats et des discussions autour des projets. Je demande aux populations de lire les projets de chaque candidat et de pouvoir faire un vote utile.
Monsieur Sami Badiwang Antita, Radio Okapi vous remercie.
Le candidat président à la présidentielle numéro 18 s'entretenait avec Pele Kipela Mondo. Par ici prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.